Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission consacrée à la fête de la Nativité du Christ aujourd'hui, qui commencera par une évocation du thème de Noël dans les écrits du saint évêque serbe Nikola Velimirovic, mort en 1956. Un homme savant par sa formation et sa culture, mais simple dans son expression, dont les ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. Les deux dernières traductions publiées en français aux éditions des SIRT sont les Lettres missionnaires, parues en 2019, et les Sermons au pied de la montagne, parues en 2020. Lyubomir Mikhailovic, traducteur de ces deux livres, est avec nous pour parler de Noël dans les écrits de Nikola Velimirovic. Lyubomir Mikhailovic, nous aurons l'occasion de présenter les Sermons au pied de la montagne au cours de notre prochaine émission. Parlons donc aujourd'hui du thème de Noël dans les Lettres missionnaires de Saint Nicolas.
Le thème de Noël est bien sûr très présent dans les lettres missionnaires. Je rappelle que ces lettres missionnaires sont en fait des réponses que l'évêque Nicolas fait à des questions très diverses posées par ses interlocuteurs et qui sont également eux-mêmes très divers. Donc un jour, un homme qui va partir en pèlerinage en Terre Sainte demande à l'évêque Nicolas des conseils et des renseignements sur la grotte de la Nativité à Bethléem. Et dans sa réponse, l'évêque Nicolas raconte tout simplement son propre pèlerinage sur les lieux saints qu'il a lui-même accompli autour des années 1930. Comme souvent dans ses œuvres, il décrit à la fois le sens visible, le sens apparent, l'aspect physique des choses, mais aussi leur sens caché, leur sens spirituel. En un mot, il nous décrit ce qu'on voit et il nous fait voir ce qu'on ne voit pas. Ce témoignage, ce récit sont d'autant plus importants pour nous aujourd'hui que nous sommes dans une période d'incertitude liée notamment à la pandémie. Dans les conditions actuelles, la lecture de ce pèlerinage nous touche d'autant plus que nous ne savons pas quand les voyages et les pèlerinages pourront redevenir comme avant. Alors tout d'abord, il y a une description du visible. Le pèlerin, c'est-à-dire l'évêque Nicolas lui-même, devient reporter. Une belle route, aussi blanche qu'une toile, mène les pèlerins de Jérusalem à Bethléem. Des oliviers, de petits champs de blé, mais surtout un paysage de pierre. Mais, nous dit-il, que nous importe? Nos yeux regardent tout cela de façon superficielle. Notre âme aspire à voir la petite grotte. Donc, ce récit n'est pas seulement le récit d'un pèlerinage en Terre Sainte, sur une route inondée de soleil, mais c'est avant tout le témoignage d'une rencontre, c'est-à-dire la découverte de la grotte de Bethléem. Et là, il y a une phrase, parce que l'évêque Nicolas procède toujours par petites touches, c'est l'une de ses caractéristiques. « C'est dans cette grotte froide, écrit-il, qu'a commencé à battre le cœur le plus ardent qui ait jamais battu sur la terre. » Un récit de voyage devient donc une rencontre avec l'éternité, avec le mystère de Dieu. L'émotion qui saisit les pèlerins est suggérée de manière très délicate. Rien n'est jamais exagéré chez saint Nicolas, tout est suggéré. Nous tombons, dit-il, tous à genoux et nous prosternons devant lui, esprit éternel et amour éternel. Le sens caché, le sens spirituel, est évoqué par petites touches. Que représente pour nous sa grotte, sinon une gifle à notre vanité et un témoin permanent de sa grandeur? Nous ressentons sa présence et nous réjouissons à chaque pas. Nous nous réjouissons à chaque pas, dit-il. Ainsi, un pèlerinage à la grotte de Bethléem nous permet de toucher directement à la source de l'Évangile, à l'origine même de la bonne nouvelle. Alors, je disais que le thème de Noël est très présent dans ces lettres. Il y a une autre lettre écrite par un simple ouvrier, car l'évêque Nicolas s'adressait à tout le monde. Il ne faisait pas de distinction entre les gens. Seul importait pour lui la qualité de leur âme. Donc, en réponse à un ouvrier qui lui demande pourquoi le Sauveur est né dans une grotte. L'évêque Nicolas rappelle, je le cite, que l'humilité est la première vertu que le Christ a recommandée aux hommes. En naissant non pas dans un palais royal, mais dans une grotte de bergers. Mais, précise l'évêque Nicolas, il existe une autre vertu, outre l'humilité, une autre vertu importante que sa naissance dans une grotte met en exergue pour les chrétiens, et je dirais pour tous les hommes. C'est la nécessité de la bienveillance à l'égard des autres, de l'altruisme, de la fraternité. Il écrit « Tenez-vous à l'étroit afin de faire de la place à d'autres. Contentez-vous de ce qui est le plus nécessaire afin que d'autres disposent aussi du nécessaire. » Et il ajoute « N'est-ce pas là un bon enseignement pour le monde en crise d'aujourd'hui ?» C'est extraordinaire de se dire que cette phrase a été écrite il y a 90 ans. Mais la naissance du Sauveur dans une grotte permet aussi à l'auteur de l'aide missionnaire de souligner, et cette observation revêt aussi une portée permanente, que, je le cite, « ce n'est pas sa position sociale qui donne de la valeur à un homme. L'homme représente une valeur plus grande que tout sur la terre. Le luxe et l'éclat apparent ne grandissent pas l'homme, de même que la pauvreté ne le diminue pas. » Mais au-delà de leur vision évangélique, toujours dite en termes simples, accessibles, donc permanents, donc éternels, ces lettres démontrent la capacité, je dirais extraordinaire, de l'auteur à rendre son message accessible à tous ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine sociale, leur formation intellectuelle ou tout simplement leur âge. Je rappelle que les lettres missionnaires s'adressent à des gens très différents, intellectuels, hommes d'État, artisans, ouvriers, adolescents, et même à des enfants. Alors, à cet égard, l'évêque Nicolas fait allusion à un épisode de la vie d'un petit berger de Palestine, dénommé David. C'est lui, n'est-ce pas, puisque cet enfant a demandé à l'évêque Nicolas d'imaginer un conte de Noël, et l'évêque Nicolas, pour accéder à la demande de cet enfant, présente un récit tiré des Saintes Écritures comme un conte de Noël, mais ça paraît tellement naturel sous sa plume qu'on a l'impression que c'est lui qui a écrit, que c'est lui qui a trouvé, qui a imaginé cet épisode. Or, cet épisode qui met en scène un petit berger qui s'appelait David et qui deviendra le roi David, cet évangile est évidemment éminemment évangélique. Alors, l'évêque Nicolas donc fait allusion à l'épisode d'un petit berger de Palestine qui fait paître ses brebis près de Bethléem. Et c'était une journée chaude, comme celle par laquelle lui-même, l'évêque Nicolas, a découvert la grotte de Bethléem. C'était une journée chaude, les brebis s'étaient couchées à l'ombre d'un olivier. Et puis, le petit berger, il a très chaud et il trouve une grotte pour fuir la chaleur. Et il s'assoupit. Et dans son songe, il vit, raconte Saint Nicolas, un horrible serpent qui s'était insinué jusqu'à sa poitrine. Tremblant de peur, il s'écria « Seigneur mon Dieu, ne m'abandonne pas !» Et à peine eut-il prononcé ces mots qu'une lumière inhabituelle se mit à briller dans un coin de la grotte. Il vit une belle jeune fille qui tenait dans ses mains un petit enfant, un enfant merveilleux comme David ne l'avait jamais vu. Soudain, l'enfant se redressa, regarda sévèrement le serpent et ses yeux étaient comme deux éclairs. En un instant, le serpent rampa vers la sortie de la grotte, mais quand David voulut exprimer sa gratitude pour ce sauvetage inattendu, il ouvrit les yeux et ne vit plus rien. Alors, toute la grotte fut envahie par un doux parfum, ressemblant à un mélange de précieux encens et de myrrhe, indique l'évêque Nicolas. Bien sûr, on a deviné que le petit berger évoqué ici deviendra le roi David, et ce qui est raconté dans cet épisode demeurera toujours dans sa mémoire. Mais, je dirais, l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin de ce conte d'enfant, dont l'auteur nous dit, et c'est ça qui est extraordinaire, ça donne une authenticité, une touche locale encore plus forte, l'auteur nous dit que ce récit lui a été raconté par des orthodoxes arabes du village de Beit Jala. Beit Jala, c'est à 2 kilomètres de Bethléem. sans doute à l'occasion du pèlerinage auquel il a fait allusion en évoquant la grotte de la Nativité. Donc à la fin de ce récit, saint Nicolas adresse à son jeune correspondant la salutation traditionnelle que les Serbes s'adressent à l'occasion de la fête de Noël, « Christ est né », à laquelle l'usage est de répondre « En vérité, il est né ».
Merci beaucoup, Ljubomir Mihailovic. Et je voudrais qu'on revienne deux minutes sur deux points qui paraissent essentiels, surtout par rapport à Noël, puisqu'on les trouve non seulement dans la théologie, mais évidemment aussi dans l'hymnologie de la fête, qui sont d'une part l'humilité, puis la bienveillance. Nous chantons dans la doxologie qu'il y a la bienveillance parmi les hommes, et la doxologie est directement liée à la fête de Noël. Hein. Les anges chantent au ciel, ça. Donc, les thèmes, comme toujours avec lui d'ailleurs, il fait de la théologie, il se réfère à l'hymnologie d'église, mais comme vous avez dit à propos du conte, il ne le dit presque pas, parce qu'il a une manière très personnelle comme ça, et très détendue pour approcher les gens et leur parler. Alors, est-ce que ces thèmes de l'humilité et de la bienveillance sont toujours présents dans la pensée du saint évêque Nicolas Velimirović?
Vous avez raison, l'humilité et la bienveillance sont très présents tout au long de son œuvre. Lui-même se considérait comme un serviteur de Dieu au service des hommes. Ce sur quoi il insiste, c'est la fraternité qui unit tous les hommes entre eux. Je rappelle une petite anecdote. Quand il était évêque d'Ohrid, au début des années 30, on lui dit qu'il y a un cimetière allemand qui est en mauvais état, un cimetière militaire allemand de la Grande Guerre qui est en mauvais état. Il donne immédiatement l'ordre de restaurer ce cimetière parce que pour lui, un soldat qui était un adversaire en temps de guerre est un chrétien, est un être humain pour le repos de l'âme duquel il faut prier. Donc il faut qu'il garde sa dignité. Une fois que la guerre est terminée, les hommes redeviennent tous frères.
Merci beaucoup. Donc je rappelle que tout ceci est tiré du livre paru en 2019 sous le titre général « Les lettres missionnaires » que vous avez traduit Ljubomir Mihailovic, c'est aux éditions des SIRT, et nous allons nous retrouver ensemble dans 15 jours pour parler d'une autre édition, celle de 2020, d'autres textes donc de saint Nicolas Velimirović. Maintenant, une musique inspirée également du thème de Noël, c'est le compositeur estonien, orthodoxe aussi, Arvo Pärt. C'est une berceuse de Noël par l'orchestre de chambre de Tallinn et le chœur de chambre philharmonique d'Estonie sous la direction de Tõnu Kaljuste. Et maintenant, écoutons le message de Noël du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Enfants bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d'espoir à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En cette fin d'année 2020, nous arrivons au terme d'une période où les tragédies, les actes de violence et bien entendu cette terrible pandémie de la COVID-19 ont dominé l'actualité et rendu la vie de tous et de chacun particulièrement difficile. Les ténèbres qui enveloppent le monde ajoutent au fardeau de nos luttes et de nos difficultés personnelles et familiales engendrées par les passions humaines. Nous sommes maintenant au cœur de célébration de la Nativité selon la chair de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous demandons quel est pour nous le message qui nous est donné en cette nuit mystérieuse pendant laquelle les anges ont annoncé à des hommes au cœur simple et pur la naissance du Sauveur du monde. En cette nuit si particulière, Dieu se manifeste à nous d'une manière radicalement nouvelle. Il se manifeste d'une manière qui ne correspond pas à ce que l'humanité aurait pu imaginer. Depuis les origines, les hommes se faisaient de leur Dieu des images grandioses. Ils imaginaient Dieu comme ce qu'il pouvait y avoir de plus élevé, de plus merveilleux, de plus grand, un Dieu tout-puissant, triomphant et victorieux. Mais ce Dieu qui nous est apparu aujourd'hui dans la crèche de Bethléem, les hommes auraient eu du mal à le concevoir parce qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir un tel Dieu. Un Dieu pauvre, persécuté et qui, comme dit le prophète Isaïe, n'a ni beauté ni éclat. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Par ces mots, les mages expliquèrent au peuple de Jérusalem, désemparé, leur désir ardent de savoir où se trouvait le roi nouveau-né. De loin, à travers le désert et la montagne, ils sont venus, non sur l'ordre d'un prophète, non en réponse à l'Écriture, non à l'obéissance à un rêve ou à une vision. C'est une étoile solitaire et silencieuse qui les a amenés, les conduisant vers l'ouest, les palais de la Perse, à une humble étable de Judée à Bethléem. Ainsi, en regardant cette merveilleuse et simple étoile, ils ont perçu qu'ils étaient témoins d'un phénomène exceptionnel. Une nouvelle étoile, une étoile conduisant de roi à un roi, une étoile qui indiquait une direction et qui était guidée par celui qui voulait attirer tous les hommes à lui. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, appelés à être cette étoile. Nous qui avons goûté aux rayons vivifiants du soleil de justice, qui avons goûté à la joie de son royaume, nous sommes appelés à être la lumière du monde, conduisant ceux qui nous entourent à la connaissance de notre Seigneur incarné, du Dieu fait homme, petit enfant et Dieu éternel. Nous, dans le cœur desquels un jour nouveau s'est levé, et aussi dans lesquels l'étoile du matin s'est levée, nous avons pour devoir d'être ses témoins devant toute l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous sommes envahis par le désespoir face aux tragédies de ce monde et de nos vies, Souvenons-nous que c'est précisément au milieu de ces ténèbres que le Verbe de Dieu a choisi de s'incarner. Nous savons, en tant que chrétiens, que le monde aspire à l'amour authentique, mais semble rester englué dans les tragédies dont nous sommes témoins chaque jour. Le véritable amour et une paix durable ne peuvent être achevés que par notre communion avec Dieu. Au monde entier, à tous les croyants comme aux incroyants, nous voulons témoigner aujourd'hui de l'amour du Seigneur. Que le Christ nouveau-né nous accorde le courage de garder son amour dans nos cœurs, de renforcer notre communion avec tous nos frères et sœurs par la prière, le sacrifice et l'humilité, et de nous souvenir que, quel que soit le degré de notre propre faiblesse ou des faiblesses du monde, le Christ est venu nous donner l'espoir d'un jour nouveau. Au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse à toutes et à tous, à l'aube de cette nouvelle année, que la lumière, la paix et la joie de Noël soient présentes dans vos foyers et vos familles.
C'était Noël avec Lyubomir Mikhailovic et le message du métropolite Emmanuel. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Un grand merci à Anne Pérez pour la réalisation de cette émission dans les circonstances particulières imposées par la crise sanitaire. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et voici maintenant le service protestant.